Bonjour Naïm.
Bonjour Lucie.
Merci infiniment d'avoir accepté. On ne se connaît pas. Je t'ai contacté sur Instagram et tu as accepté directement. Merci infiniment pour ta générosité.
Bon, merci à toi, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Merci pour ta proposition, vraiment, c'est un honneur.
Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr. Alors moi, ben bonjour à tous. Moi, c'est Naïm. Je suis enseignant agrégé en économie-gestion et je suis également formateur en pédagogie. Et j'enseigne dans un lycée à des classes de BTS. Et puis parfois, j'interviens aussi à l'université ou en IUT ou ce genre de choses, centre de formation, tout ça. Et j'ai un site qui s'appelle mamethodo.fr qui propose des formations en pédagogie pour les enseignants.
Wow, merci beaucoup, merci.
Merci à toi.
La question phare de cet entretien est comment c'était à l'école pour toi?
C'est une question. Waouh! Et alors là, je me replonge dans les souvenirs lointains. Alors, tu sais, Lucie, ma mère, elle m'a avoué une chose il y a pas très longtemps que j'avais complètement oublié. C'est qu'elle a tenté de me mettre à l'école à 2 ans et que j'ai fait une crise, mais tu vois, vraiment incontrôlable, quoi, le gamin, à tel point que finalement, elle m'a mis à l'école un an après.
D'accord.
Tu vois, parce que j'ai une relation très très fusionnelle avec ma maman. Et du coup, moi, l'école, ça a commencé à 3 ans et ça a commencé par des pleurs, des cris. Enfin, voilà, c'était surtout la peur de quitter sa mère, quoi, quelque part. Mais en fait, quand je regarde clairement mon parcours scolaire et universitaire, je me rends compte qu'il n'y avait absolument rien de linéaire, mais vraiment rien. La primaire, je refusais de faire les devoirs en classe de CP. Et ma mère, un jour, elle a eu la bonne idée de me dire la meilleure chose qu'elle pouvait me dire à l'époque. Tu sais, Naïm, tu ne fais pas tes devoirs pour moi, tu ne fais pas tes devoirs pour ton enseignant, tu fais tes devoirs pour te développer toi.
Wow.
Et tu peux passer à côté de ça, hein, si tu veux. Mais voilà, c'est apprendre ou à laisser. Et tu passerais à côté de beaucoup de connaissances, je pense. Et moi, j'ai toujours vu ma mère lire. C'est une lectrice incroyable, elle dit tout le temps plein de choses. En bref, très cultivée. Et du coup, bah, c'est là que ça a commencé. Et en fait, dès tout petit, dès le CP, je proposais à des camarades de venir faire les devoirs à la maison, des camarades qui avaient, dès le CP, hein, qui avaient des difficultés, tout ça. Et je m'en suis rappelé bien des années après. Et par contre, à partir du collège, ça n'a plus du tout été. À partir de la classe de quatrième, alors là, c'était mes descentes aux enfers, quoi, mais vraiment.
Ok.
Hein, ouais. Avant ça, c'était élève brillant. Et à partir de la quatrième, c'était terminé. Terminé.
Et qu'est-ce qui fait que il y a eu soudain un basculement?
Le sentiment de ne pas être à ma place, le sentiment de ne pas être compris par les profs, des problèmes aussi, tu sais, ben, d'ordre personnel, mais tu sais, quand tu es ado, ben, voilà, tu te poses plein de questions existentielles, des fois tu as du mal à t'accepter, et moi c'était clairement mon cas en fait à l'époque. Ouais, je m'en suis rendu compte après, mais je pense que j'étais ce qu'on pourrait qualifier d'un adolescent dépressif, clairement.
D'accord.
Ouais, et en fait, des fois, je pleurais dans les couloirs de l'école, enfin du collège, et je me souviendrai, moi, d'un moment qui m'a marqué dans ma vie collégienne. J'étais en train de chialer dans les escaliers, et il y a un prof qui est passé, qui m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, et il s'en est allé sans dire un mot. Et en fait, en devenant prof, je me suis promis d'être à l'opposé de ce genre de prof. Vraiment, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'adolescence, à l'école, c'était trop long, tout ça. Et en fait, bon, ma mère, elle s'en est rendue compte. Et elle m'autorisa à ne pas aller à l'école dès la classe de première. Parce que j'ai suivi mon orientation à moi. De seconde, ça n'a pas du tout été. Et première, on m'a envoyé en électrotechnique où je devais faire des
D'accord.
câblages. Donc j'ai suivi mon orientation. Je n'étais pas fait pour ça, vraiment pas. Et du coup, ma mère, en fait, bon, voilà, elle sentait que ça n'allait pas trop. Elle me disait le matin, bon, tu fais quoi, tout ça. Je dis, ah, maman, j'ai envie de rester un petit peu. Voilà. Elle appelait le lycée, en fait. Elle disait, bah, écoutez, mon fils ne viendra pas à l'école. Et après, je me suis fait exclure de ce lycée-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de
D'accord.
dire. Je ne sais pas si je peux en parler, Lucie.
Non, mais c'est non, mais désolé de dire excellent, mais excellent de dire que ce que tu disais est juste, c'est pas linéaire.
Alors,
Ça veut dire que ton histoire, ton parcours fait l'homme extraordinaire que tu es aujourd'hui. inspirant, apaisant pour les jeunes que tu côtoies. Et je trouve ça tellement, dans un premier temps, humble de ta part de pouvoir le partager, de pouvoir te livrer, de pouvoir donner en fait cette expérience qui est une pépite pour les parents et les jeunes.
Ah, déjà, c'est très, très, très touchant, Lucie. Merci du fond du cœur pour tes mots. Et moi, ça me tient à cœur aussi de parler de ça à mes élèves dès le premier jour. Chaque classe que j'ai accueillie, je leur ai fait en mode storytelling. Je vais vous parler du pire élève que j'ai eu, en fait. Et à la fin de leur discours, je leur explique que ce pire élève-là, c'est moi, en fait. Et là, ils me regardent comme ça. Et simplement pour leur comprendre que, mais vous, à votre âge, moi, je n'ai pas été pris en BTS, par exemple. Là, je suis face à vous, vous êtes en BTS, vous êtes en première, pour certains STMG, vous avez suivi leur orientation, mais le prof que je suis aussi, en fait. Tu vois, et tu as beaucoup, malheureusement, d'élèves comme ça qui ont tendance à penser que le prof, c'est quelqu'un qui va lire des bouquins au bord de sa cheminée, qui ne va pas comprendre le monde, tu vois, assez froid, assez, enfin voilà, faut renfermer sur lui-même, et pas du tout. Et moi, je me suis fait exclure de cette filière-là.
Ok.
Mais pas parce que j'étais turbulent, parce que je me suis défendu de quelqu'un qui m'a harcelé pendant un an. Voilà, en
gros,
c'est ça. Tu vois, vraiment, hein, tu vois, un gars, c'était en fait des chamailleries, on va dire. Mais très souvent, c'était arrête, je vais à un moment donné.
C'était du harcèlement.
C'est ça. Et avec le recul, je me rends compte que oui. Avec le recul, clairement, je me rends compte que oui. Mais moi, si tu veux, je le prévenais. Je lui disais arrête, il va se passer un truc et tu ne vas pas assumer, en fait. Et ma gentillesse était perçue comme une faiblesse. Sauf qu'un jour, vers la fin de l'année, j'ai explosé désolé, hein, pardon, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je l'ai frappé, en fait. C'est-à-dire que toute cette année-là, elle est sortie, et donc là, je vais t'épargner la suite, mais en gros, ils m'ont fait passer pour un gamin violent, en fait, parce que je lisais des mangas à l'époque. Donc voilà, c'était. Parce que bon, maintenant, ça s'est démocratisé, tout ça, mais
assez réducteur.
Ouais, mais c'est ça. Et en plus, en conseil de discipline, c'est dit devant ma mère, enfin voilà, c'était honteux, tu vois. Et donc, heureusement, la meilleure chose qui ait pu m'arriver à ce moment-là, c'est de me faire exclure de ce lycée-là, et du coup, je suis passé dans un autre lycée où j'étais toujours absent, mais arrivé au bac, en fait, je me suis rendu compte que ma mère m'avait fait confiance. Elle m'avait fait confiance en me permettant de ne pas aller en cours. Et je ne pouvais pas trahir cette confiance-là, en fait. Je ne pouvais absolument pas trahir cette confiance-là. Je ne pouvais pas me trouver des excuses en disant que le système était mauvais et que non, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, il fallait que j'aie mon bac. Et donc, au mois de, je crois que c'était avril, je lui ai dit, maman, il faut que tu m'emmènes à la FNAC, et je vais acheter des bouquins parce que je vais avoir mon bac, hein, maman. Et donc ma mère, viens, on va à la FNAC, pardon. Donc j'ai acheté des synthèses, voilà, tac, tac, tac. J'ai bossé un mois et demi non-stop, matin, midi, soir, nuit, en buvant de la Red Bull et en mangeant du chocolat, pensant que c'est bon pour mon cerveau. Mais je te jure, je me suis fait mal comme jamais, Lucie, c'était incroyable. Et j'ai eu mon bac, j'ai été au rattrapage parce que j'ai voulu aller au rattrapage. C'est-à-dire qu'à un moment, sur un gros coef, j'ai dormi en me disant ça vaut un 8 et j'ai 8 à cette copie-là. Et je voulais aller à l'oral parce que je voulais avoir des points à rattraper pour être sûr de savoir quelle matière prendre et tout ça. Et du coup, j'étais à l'oral et j'ai eu mon bac comme ça. Enfin...
Oh mon Dieu, bravo.
Merci Lucie, mais quel... Oh mon Dieu. Donc je ne suis pas un exemple, vraiment, je tiens à le dire.
Ouais, je... Mais... Et à la fin, enfin à la suite de ce bac, que s'est-il passé?
Forcément, dossier catastrophique, Lucie. Donc, très compliqué de se faire prendre en BTS. Alors, pour la petite anecdote, tous les BTS qui ne m'ont pas pris m'ont accueilli en tant qu'enseignant. Donc, donc ça, c'est assez cocasse quand même.
Tu m'étonnes.
C'est comme quoi, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein, si on
Exactement.
Avait dit ça.
Ouais.
Et donc, finalement, moi, je me retrouve à l'université parce que moi, j'étais pris dans aucun BTS. Et pour moi, en fait, je ne connaissais même pas l'orientation. La seule conseillère d'orientation que j'ai vue, je te jure que c'est vrai. Alors, la formation n'existe plus, mais elle m'a proposé un CAP bergerie. Mais je te promets que c'est vrai, elle m'a proposé une formation pour devenir berger. Je ne sais plus si l'intitulé, c'était CAP bergerie. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, moi, j'aime bien la nature, mais après... Enfin voilà, je vis en ville, je vis dans une métropole, les lycées, ça se passe comment? Et moi, je prenais son propos pour argent comptant, parce que pour moi, forcément, c'est dans la perception d'un gamin, si une conseillère te parle, c'est qu'elle est experte dans son domaine, quoi, tu vois. Et donc, je ne l'en ai plus vue parce qu'après, je me suis dit, bon, je pense qu'elle se moque peut-être de moi, je ne sais pas. Mais du coup, je me retrouve en licence de chinois. Moi, je voulais faire du japonais, j'adorais le japonais. Et je me retrouve en licence de chinois par LV2 japonais parce que j'avais mes amis d'enfance. Moi, j'ai la même bande de potes depuis l'école primaire, en fait. Et ces amis d'enfance-là ont choisi chinois pour l'avènement du commerce international à l'époque. Et moi, je
D'accord.
voulais être sûr de pouvoir rattraper les cours en cas d'absence. Voilà, c'était ma stratégie, tu vois.
Oh, les
Et après,
stratèges.
ouais, c'est ça, c'était ma stratégie. Mets-toi avec eux, de toute façon, tu ne vas pas aller en cours, Naïm, tu n'aimes pas aller en cours. Mets-toi avec eux, comme ça, ils vont te donner les cours si tu n'y vas pas. Et je ne comptais pas y aller, de toute façon. Et malheureusement pour moi, je suis tombé sur des profs passionnés et donc passionnants. Et j'ai été le plus sérieux, en fait. Et c'est moi qui donne les cours et j'ai vécu des années universitaires qui sont inoubliables. J'ai
Waouh.
appris sur le bouddhisme, sur le taoïsme, sur le théâtre des Tang, de la dynastie des Tang. Enfin, et donc, t'imagines, Lucie, j'avais une prof de pensée chinoise avec un accent italien, avec les mimiques. C'était un délice. Je buvais ses paroles. C'était incroyable. C'était incroyable, Lucie.
Waouh.
Et donc, bah voilà quoi, licence de chinois. Et c'était incroyable, hein, la licence de chinois, franchement. Oh, c'était vraiment bien. J'en garde un excellent souvenir, vraiment. Vraiment.
Mais tu attises ma curiosité, mais licence de chinois, comment as-tu pris d'autres? Quels sont les chemins que tu as appris et comment les as-tu pris? Parce que rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais tu es
Absolument rien à
extraordinaire.
voir. Bah ouais, absolument rien à voir en fait. Bah en fait, si tu veux, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis intéressé beaucoup, tu sais, à ce qu'on appelle le unschooling, le homeschooling, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque vraiment on a l'envie de développer des compétences, eh ben, notre cerveau est capable de le faire si on a l'environnement propice et les techniques adéquates. Et en fait, toute ma scolarité, ça n'a été que ça. J'ai eu besoin d'apprendre des choses pour aller au bac, ben j'ai appris ces choses-là au moment voulu. Et pareil pour la licence de chinois. J'ai trouvé un intérêt là-dedans, ça m'a vraiment intéressé. Ben j'étais le plus passionné de ma classe et ben j'étais vraiment excellent. Alors peut-être pas en langue, je t'avouerai, mais en tout cas en littérature, en histoire et tout, j'étais vraiment excellent à l'époque. Et en fait, si tu veux, j'avais une carrière de danseur à côté.
Wow.
Moi, si tu veux, dans ma famille, en fait, je suis d'origine algérienne. Et dans ma famille, du côté de mon père, dans les repas de famille, on pousse les tables et on danse. C'est
Wow.
culturel, en fait. C'est comme ça, tu
Excellent.
vois. Ouais, c'est trop bien. C'est culturel, les enfants dansent, la grand-mère, elle danse. Enfin, voilà, tout le monde danse, mon père danse tout le temps. Enfin, voilà. Et du coup, moi, en fait, parallèlement à l'école, j'aime bien la danse hip-hop, tu vois. Donc, je me développe, tout ça, j'essaye de danser. Et je commence à gagner des compétitions individuelles, local, national et international.
Quoi?
Et en fait, en troisième année de chinois, j'ai dû arrêter mes études parce que ma carrière artistique me prenait tout mon temps et j'ai été appelé à l'étranger pour donner des stages de danse et pour juger des compétitions, tu vois. Et donc, j'ai mis mes études de côté. Tu
Même,
vois,
j'adore.
c'est n'importe quoi.
Mais j'adore. Mais
C'est
quelle
dingue.
surprise!
Ouais, bah ouais, c'est ça. Et il y a des. C'est marrant, tu vois, parce que mes premières années d'enseignement, j'enseignais des fois à la fac, je faisais des TD, tout ça. Et très souvent, les étudiants à la fac, ils tapent le nom du chargé de TD pour voir les travaux qu'il a fait, les revues dans lesquelles il a contribué, ce genre de choses. Sauf que moi, ils trouvaient des battles de danse, en fait. C'était assez drôle à l'époque, je te jure.
Mais j'adore, j'adore.
C'est incroyable. Et du coup, j'ai mis de côté pendant, je ne sais plus, 3-4 ans, un truc comme ça. Des fois, je rentrais chez moi pour changer ma valise et repartir. Donc, c'est ultra gratifiant quand tu vis ta passion et tout, c'est incroyable. Sauf qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que le professionnel prenait le dessus sur la passion.
OK.
Et j'étais étouffé et j'avais plus l'amour de la danse que j'avais auparavant. Et puis, je voulais me poser aussi, essayer de fonder une famille, ce genre de choses. Et du coup, bah, j'ai arrêté. J'ai mis de côté ma carrière au moment où ça a pété le plus pour moi. Alors, je dis
D'accord.
humblement carrière, parce que voilà, j'ai été invité dans une quinzaine de pays à peu près, mais je dis avec beaucoup d'humilité. Quand j'ai commencé là-dedans, je ne m'attendais pas à pouvoir en vivre, en fait. Et j'étais en plus bien payé à l'époque. Enfin, c'était incroyable. Je n'aurais jamais été au Kazakhstan sans la danse, je pense. Pareil pour la Russie. Enfin, je me suis retrouvé en Corée du Sud, je me suis retrouvé en Suède. Enfin,
Waouh.
C'était incroyable, vraiment. Je regarde ça avec beaucoup de gratitude. Et du coup, j'ai repris mes études en troisième année de chinois. Parce que voilà, j'étais en troisième année de licence, je me suis dit, va décrocher ta licence, en plus, t'aimes ça. Donc, je reprends, c'est bon, je décroche ta licence. Et là, je ne sais pas trop quoi faire parce que bah, je ne sais pas. Donc, je continue le master. C'est le master dans la lignée de la licence langue et civilisation, en fait, tu vois. C'était ça. C'était un master ici, relations internationales et coopération interculturelle. Et en fait, c'était bien parce qu'il y avait des gens de toute la planète, mais j'ai eu des profs adorables et j'ai eu des profs catastrophiques. Et en fait, tu sais, des fois, tu fais des études et tu sens que tu dois être là pour avoir ton année. Ben, c'était un peu ça, quoi. Tu vois, c'était du présentiel. Alors, OK, on rigolait bien, tout ça. Malgré moi, je finis ma genre de promo, donc tu vois, c'est cool. Et là, je sais. Et là, je ne sais pas quoi faire, Lucie. Là, je ne sais pas quoi faire et je suis un petit peu perdu. Donc, voilà.
Mais quand tu dis que tu es perdu, mais quel est l'élément ou la personne qui t'a permis en fait d'aller vers cette voie que j'entends que tu n'avais pas en fait?
C'est exactement ça. C'est une voie que je n'avais pas, hein, clairement. Donc, en fait, je me suis retrouvé en master parce que c'était la continuité de la licence. Je me suis dit, oh, allez, s'arrête au master, et puis un master en langue, culture et civilisation étrangère, mention chinois sur le marché de l'emploi. C'est voilà, on va pas se mentir, c'est pas très concurrentiel, tu vois. Tu pars pas avec un unfair advantage sur ça, tu vois. Enfin, bref, et du coup, clairement, j'ai un ami qui avait dansé aussi, qui était d'ailleurs un de mes mentors à l'époque, qui avait arrêté la danse et qui était devenu enseignant. Et on s'appelle tout ça. Moi, j'ai ma vie d'étudiant, donc je travaille dans de la restauration. Je fais, enfin voilà, j'enchaîne des petits boulots comme ça. Le soir, tu fais face à une clientèle qui est pas très cool. Enfin voilà, c'est pas évident. Je commence à être papa, tu vois. Enfin, il faut de l'argent et moi, je suis étudiant. Enfin bref, c'était assez compliqué. C'était une période qui était quand même pas facile avec le recul, vraiment. Mais j'y croyais, tu vois. Je me suis dit, voilà, on tente, tu vois. Je suis plutôt d'humeur optimiste. Après une adolescence que je t'ai partagée. Et du coup, il me dit, bah, écoute, moi, je suis devenu prof. Et franchement, j'aime bien et tu devrais le tester. Si tu veux, je t'aide. Je dis, bah, écoute, franchement, je ne vais pas te mentir, j'adorais donner des cours de danse. Et j'avais oublié qu'au CP, je demandais aux copains qui avaient des difficultés de venir. Et en plus, j'avais fait des périscolaires depuis. J'aime bien la pédagogie. Vas-y, bah, tu sais quoi, on va essayer. Et c'était le concours pour être enseignant en lycée professionnel. C'est le concours du CAPLP. En économie-gestion, je ne connaissais absolument rien à l'économie-gestion, mais rien, tu vois. Et donc, pendant un an, je travaille ça et je suis pas admissible. Et tu avais le CAPLP et le CAPED pour enseignants en lycée technologique. Et le CAPED, pour moi, c'était trop, 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 trop haut, tu vois. On va pas le tenter, on va tenter le PLP. Il paraît que c'est un peu plus facile pour enseigner en lycée pro. Et je me prends une gamelle, je révise pendant un an non-stop et je suis pas admissible, en fait. Je rate les écrits. Tu vois, donc je ne vais pas à l'oral. Et là, quand même, coup dur, parce que je travaille dans la restauration à mi-temps, je ne suis pas bien payé du tout. J'ai des enfants. Voilà, faut trouver une situation là, tu vois. Je ne peux pas rester comme ça. Et du coup, les 7 échecs, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver professionnellement. La meilleure chose. Je t'explique, Lucie. De 7 échecs, j'avais 2 solutions. Soit considère que le monde est coupable et que bah, c'est pas de ma faute, j'ai fait du mieux que j'ai pu et tout ça. Soit je me mets en question et je me dis bah, comment on vise l'excellence. Et en fait, je me suis intéressé aux neurosciences à partir de ce moment-là. Et je suis tombé sur les travaux de Tony Buzan, sur la lecture rapide, sur le mind mapping. Et l'année d'après, je prépare donc mon année pour ce concours-là. Je m'inscris au CAPET. Je m'inscris au CAPET. Je dis allez, tant qu'à faire, on y va. Je suis admissible au CAPLP. Et je décroche la meilleure note de France à l'un des 2 écrits, à savoir 19,33 sur 20. Et je le suis après, hein, quand le rapport du jury est sorti et que les notes sont sorties, c'est à ce moment-là que je le suis. À ce moment-là, je ne le savais pas.
Excellent.
Non, mais c'est ouf. Et en même temps, je suis admissible au CAPET. Je me souviens, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, le concours difficile, finalement, je vais à l'oral, tout ça. À l'oral, je vais avec un mental d'acier. Et heureusement, j'ai fait des battles, j'ai fait Bercy, tout ça. Donc ça va, tu vois, la pression et tout, je connais. Et je vais en
Exact.
mode. Ouais, je vais en mode, faut qu'on en finisse, Lucie, tu vois, ça y est, j'ai révisé, je suis prêt, ne vous inquiétez pas, ça se passe super bien, j'ai d'excellentes notes. Là, à l'époque, le gars me dit à la fin de l'entretien, où vous voyez dans 5 ans, je dis, bah, j'aimerais bien créer une plateforme collaborative pour les enseignants. Mais tu sais, c'était un projet que j'avais comme ça, je lui ai dit comme ça et tout, ça m'est passé par la tête au moment où il me pose la question. Et bref, donc j'ai mon concours, donc j'entre dans la fonction publique. Et voilà comment j'ai eu le concours du CAPET à l'époque, tu vois. Et là, je crois qu'on est en 2000, 2015, ou, ouais, 2015, je crois, ou 2016, un truc comme ça, en gros, tu vois. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'enseignement, tu vois, c'était ma première porte.
Moi, je me dis, tu vois, le chemin, les expériences que tu as eues et le fait que tu aies pu avoir cette personne, ressource, qui te mette sur la voie. Et ça, si tu veux, quand je rencontre des jeunes ou même, si tu veux, des adultes qui eux-mêmes sont en perte de repères, juste être confiant dans ces personnes, dans ces rencontres, dans ces expériences. Et il y a un mot que j'ai pour toi, il vient de Boris Cyrulnik. Tu vois de quel mot je parle?
Pas du tout, mais j'ai hâte de l'entendre.
Alors, le père de la résilience, Boris Cyrulnik, et j'entends chez toi ce mot résilience, j'entends. Tu veux, tu l'incarnes. Le fait d'avoir eu toutes ces expériences, le fait de pouvoir rebondir, le fait de pouvoir faire justement de ces épreuves désagréables. Et on parle maintenant, tu parles de l'échec et de se dire que tu as pu rebondir. Waouh!
Ah, c'est cool. Mais bah, déjà, merci hein, de me qualifier ainsi. C'est vraiment flatteur. Après, je pense que cette expérience-là m'a permis de comprendre une chose. Il y a une grande différence entre l'échec et la fatalité, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai appris que échec, ça venait ben, du jeu d'échecs. Et quand on est échec, on peut encore jouer finalement. C'est-à-dire qu'on a encore des coups possibles, tu vois, à mettre en œuvre pour se sortir de la situation. On a vu des parties d'échecs dont le joueur était échec et qui, au final, s'est soldé par un résultat positif et une victoire. Et en fait, c'est ça, c'est que on n'imagine pas combien l'échec est formateur et combien l'échec, et les neurosciences l'ont prouvé, notamment dans l'apprentissage, que l'échec est nécessaire à l'apprentissage, à la compréhension, parce que ça crée un ancrage finalement. Et moi, je sais que par exemple, si j'avais pas eu cet échec-là au KPLP la première fois, bah, je me serais peut-être pas intéressé aux neurosciences. En plus, le monde professionnel, c'est pas un monde que je connaissais très bien à l'époque, et j'étais mieux armé pour appréhender le lycée technologique. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé de mieux, en fait. Vraiment, c'est ce qui. Et puis, de connaître un an de plus de galères financières et tout, mais c'est ce qui aurait pu m'armer de mieux ben, pour la vie future, pour, voilà, pour prendre soin de mes enfants, enfin, tout ça, en fait. Et aussi pour expliquer humblement à mes élèves que je sais ce que c'est que d'être mal dans sa peau, je sais ce que c'est d'avoir des difficultés financières pour certains de mes étudiants, je sais ce que c'est, des fois, d'avoir le moral au plus bas et de se dire qu'on va pas réussir, je sais ce que c'est. Franchement, bosser pendant un an pour un concours et au final le louper, quand on n'a que ça comme sortie de secours, c'est pas évident en fait. Et crois-moi, Lucie, à l'époque, quand j'ai eu les résultats, ah, j'étais au plus bas. Hein. J'étais au plus bas, tu vois. Et en plus, bah, on va pas se mentir, tu as la pression extérieure. Alors
Bien
le
sûr.
concours, tu l'as eu, tu vois, les repas de famille, les trucs comme ça. Même si, attention, moi, ils ont toujours été bienveillants avec moi, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a ce truc-là. Et en fait, là, si tu veux, je deviens stagiaire. Je deviens enseignant stagiaire.
OK.
J'arrive sur les lieux de rencontre avant la prise en charge de la classe. Et en fait, si tu veux, là, on voit tous les tuteurs de l'académie dans ma matière, on voit tous les stagiaires, on se rend compte. Et là, bah, tu es dans quel lycée, tout ça. Donc, je nomme le lycée dans lequel je suis. Et là, en fait, stupeur. Ouah, tu es dans ce lycée. Ah, mais c'est le lycée le plus dur, franchement, bon courage. Enfin, voilà. Et donc, moi, petite pression, quoi, tu vois, normal. En plus, tu vois, on me peint un visage d'élèves qui, au moindre coup bas, vont te planter. Enfin, voilà, moi, ça va être trop dur, quoi, tu vois. Les élèves sont méchants, ils sont mauvais, ils sont pas, enfin, voilà. Donc, je dis, bon, ben, on verra, en fait. On verra. Moi, je sais ce que c'est de pas être bien à l'école. Je sais ce que c'est de louper son orientation. Et puis voilà, donc on verra. Donc j'arrive dans ce lycée-là, le proviseur me fait un accueil inoubliable, il me met en confiance, il prend le temps de m'intégrer. À la fin de l'année, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, vous êtes fait pour ça, je vous ai mis 40 sur 40 à la note pédagogique parce que je ne peux pas vous mettre au-dessus. Et en fait, pour commencer ma carrière, moi je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Je le salue, hein, c'est Monsieur Desplanques. Je ne pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais c'est quelqu'un qui a marqué profondément ma carrière, mon humble carrière, et aussi qui m'a permis de me conforter dans mon choix de carrière, tu vois, et mon ambition de devenir prof. Et en fait, sais, des fois, tu as des gens qui te cassent et tu as des gens qui te mettent en confiance. Et lui a fait partie de ces gens-là, tu vois, et je n'oublierai jamais. Je crois qu'il part à la retraite l'année prochaine. Il a évidemment mérité sa troisième boîte de chocolat. Mais effectivement, j'irai le saluer. Et du coup, ça démarre. Et moi, celui-ci, c'est ce que je te dis, premier cours. Je vais vous parler d'un élève. Catastrophique en cours, 3,2 de moyenne, mais moi je croyais en lui, donc je l'ai mis dans des conditions pour qu'il ait son bac, et vous savez quoi, il a eu son bac, avec ce dossier-là, je ne vais pas vous mentir, même moi je n'ai pas pu prendre en BTS, donc voilà, tac, 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 et tout, et à la fin je leur dis, bah, aujourd'hui il forme des profs, et on est en lien, c'est un collègue, il forme des profs, et il adore son métier, et tout ça, et en fait, bah, ce n'est pas un collègue, c'est moi, et donc première chose que je dois vous dire, vous n'êtes pas pire que moi à l'époque. C'est la première chose que je dois vous dire. Deuxième chose, j'ai énormément à apprendre de vous et c'est pour ça que je fais ce métier. Si vous pensez qu'on va être dans une relation univoque, c'est absolument pas le cas. Et troisième chose, je sais que ça peut être embêtant d'être assis 8 heures par jour à écouter quelqu'un de pas intéressant. J'ai beaucoup d'empathie pour vous. Alors croyez-moi, je vais tout faire pour que vous soyez bien à l'école. Et si dans mon cours, vous ne sortez meilleur que vous n'êtes entré, j'ai gagné. Le reste, on verra après en fait. Et du coup, retour incroyable des élèves l'année, Lucie, mais quand je te dis incroyable, c'est la CPE m'appelait l'OVNI, tu vois. C'est incroyable, des mots que j'ai encore. Moi, le mot qui m'a le plus marqué, c'est un bon prof est un prof qui me met en confiance. Moi, j'ai chialé, moi, sur ces mots, tu vois, mais vraiment incroyable. Et du coup, une année de stage hors pair, je finis major de promo au Master MEF. Tu sais, c'est la formation que tu as quand tu es stagiaire à l'époque. Et après, voilà, et les formateurs, je découvre l'agrégation à ce moment-là. Et ils me disent, ah non, Naïm, pas toi, tu as fait une licence de chinois, c'est pas possible que tu aies l'agrégation en éco-gestion. Donc, je le fais. Et forcément, tu vois, et je l'ai du premier coup, dès que je tente de passer l'agrégation. Quoi. Donc, voilà, en gros, le parcours. Et aujourd'hui, wow. Je suis super épanoui en tant qu'enseignant. J'adore retrouver mes classes. Vraiment, hein, j'adore ce que je fais. J'ai un retour qui est insoupçonné, incroyable. J'ai vraiment le sentiment d'être fait pour ça en plus. Et je ne me vois pas faire autre chose, en fait, pourvu que ça dure. Mais je t'avouerai une chose, c'est que j'adore mon métier, mais je suis dans un système qui me pose profondément problème, vraiment.
J'entends.
Voilà, en gros. Et j'ai du mal avec les collègues aussi, franchement. J'ai un peu de mal avec les collègues, mais c'est tout. Mais sinon, voilà, j'adore ce que je fais. Et franchement, rien ne me destine à ça. C'est-à-dire que, et je ne vais pas te mentir, hein, Lucie, il y a des profs, je leur ai envoyé des mails après l'agrégation, hein. Salut, c'est l'idiot. C'est l'idiot. Enfin voilà, tu vois, j'ai envoyé des mails parce que ça peut briser des gamins, en fait, ce genre de phrase, tu vois, que j'ai reçu, moi. Ça peut briser des gamins, quoi, malheureusement. Donc voilà mon parcours. Ah, c'est ouf de parler de tout ça.
Je suis heureuse, honorée.
Ah, c'est
honorée
moi.
Honorée que tu me partages ça, que tu transmettes cette. En fait, c'est l'espoir, c'est la lueur d'espoir. Tu sais, c'est le fait que tu as eu un environnement qui t'a porté, qui a cru en toi, même si toi, bah voilà, il y a eu des moments où c'était très délicat. Tu parles de dépression, donc psychologiquement, j'imagine biologiquement, physiologiquement, ça devait être compliqué, mais franchement, un grand chapeau bas. Et une dernière question. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires et qui ont du mal à se projeter dans leur avenir.
Alors, ouais. Sincèrement, déjà, avant de parler aux jeunes, j'ai envie de m'adresser d'abord aux parents.
Ouais, merci.
Moi, merci à toi, vraiment merci à toi, Lucie, pour ce que tu me permets de faire, vraiment. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que si j'ai réussi à ce qu'on pourrait qualifier d'un rebond, en fait, si j'ai réussi à rebondir, c'est uniquement parce que j'ai reçu énormément d'amour de mes parents. Inconditionnel. Un amour inconditionnel. Bien sûr que c'est inquiétant pour ma mère de me voir dormir le matin et de ne pas aller en cours, bien sûr. Mais en fait, j'ai reçu tellement d'amour et j'étais apaisé à ce niveau-là. Et en fait, le truc, c'est que je pense que lorsqu'on aime sincèrement un enfant, des fois, on ne se rend pas compte, mais tout ce qu'on veut, c'est son bien, finalement. Et des fois, on peut manquer de délicatesse ou on peut être brusque. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que tu connaisses ce que j'ai connu ou ce genre de phrase. Et c'est ultra légitime. Moi, franchement, je ne juge pas les parents par rapport à ça. Simplement, moi, je suis convaincu aujourd'hui que ce qui m'a permis d'avancer dans la vie et de trouver ma voie et de prendre en confiance, c'est parce que je sais que j'étais aimé de mes parents, en fait. Et je sais malheureusement que certains parents ont peut-être du mal à exprimer cet amour-là et tout, et je comprends. Mais simplement, essayez de faire en sorte que vos enfants voient la fierté dont ils ont besoin dans vos yeux. Comme ça, ils n'auront pas le besoin d'aller le chercher ailleurs. Parce que peut-être que cette fierté-là, ils ne vont pas la trouver dans les yeux d'un enseignant ou d'un coach ou d'un entraîneur de foot ou j'en passe. Et à partir du moment où je voyais la fierté dans les yeux de mes parents, bah, à ce niveau-là, j'étais, comment dirais-je, accompli. Donc, je n'avais pas de carence affective, en fait. Et ça, c'est super important de le comprendre. Tu sais pourquoi moi, j'aime profondément mes élèves? Parce que ce qui m'a permis d'être en confiance, c'est l'amour que j'ai reçu de mes parents. Et donc, je me dis qu'en les aimant, bah, je vais leur permettre d'être en confiance. Donc, la première chose, moi, c'est ça. Les parents, aimez vos enfants. Donnez-leur des mots d'amour. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux. Et on souligne souvent le négatif. Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais essayons de souligner le positif qu'ils sont capables de faire. Vous en récolterez des fruits insoupçonnés. Ça, c'est la première chose. Après, pour les personnes, les élèves, les étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, la première chose que j'ai à leur dire, c'est que aujourd'hui, finalement, on ne doit pas se cantonner à une profession ou à une passion. Et d'ailleurs, Lucie, toi et moi, on en est la preuve. À une époque, on restait 30 ans dans la même boîte, on avait une voie toute tracée. Et aujourd'hui, je trouve ça un petit peu réducteur de nous demander très tôt ce qu'on veut faire, quelle voie on veut prendre. J'ai fait de l'électrotechnique, j'ai fini en licence de chinois et aujourd'hui, j'enseigne l'économie-gestion. Et qui sait, peut-être que… Et j'ai enseigné la danse. Et qui sait, peut-être que demain, j'enseignerai la guitare ou la batterie. Enfin, je ne sais pas. Le plus important, c'est un, connaître vos valeurs et vos principes. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Ça, c'est la première chose. Et deux, qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, je suis désolé, ce qui fait que j'adore mon travail, c'est parce que ça me rend heureux. Et on passe tellement de temps au travail que ce n'est pas normal. Et j'ai eu un taf alimentaire. Je tiens à le dire, j'ai eu un taf alimentaire pour lequel j'étais mal payé, pour lequel je n'étais pas motivé. Mais la première chose, c'est savoir qu'est-ce que vous aimez. Et également, dernière chose que j'ai à vous dire, il n'y a rien de plus honorable et d'épanouissant que l'éveil intellectuel. Retourner à la lecture, retourner aux formations. Moi, mon premier poste budgétaire en tant que papa de 35 ans, bah, c'est les formations. Je me forme tout le temps, j'achète tout le temps des formations en ligne. Là, j'ai plein de bouquins, j'en ai plein qui traînent là-bas. Enfin voilà, lisez, essayez de lire. Et vous savez, vous n'allez pas aimer la lecture du jour au lendemain. Simplement, commencez 5 minutes par jour. Une habitude sur laquelle vous vous tenez, vous vous engagez à tenir cette habitude-là. Et puis voilà. Et puis également, honorez-vous comme vous honoreriez un invité. Prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien, buvez de l'eau. Moi, j'ai toujours ma bouteille. Maintenant, avant, je te cache pas, moi, j'ai un passif un petit peu autour de la drogue et toi, hein, Lucie, clairement, quand j'étais adolescent. Mais aujourd'hui, je prends trop soin de mon corps. Tu vois, je fais du sport, je dors bien, je fais attention aux écrans avant de dormir, j'essaye de lire, je bois 1 litre minimum par jour et vous allez être heureux parce que vous vous traitez comme une personne que vous aimez. S'il y a quelqu'un que vous aimez dans la vie, vous allez l'honorer, vous allez prendre soin de lui. Cette première personne, c'est vous, en fait. Et ne laissez personne vous rabaisser. Surtout pas un prof, ni même votre propre personne. Vraiment, vous avez le droit de vous aimer et vous avez le droit de vous honorer comme vous honorez quelqu'un d'autre. Si vous faites ça, vous allez trouver le reste. Les réponses vont venir, vraiment. Faites ça et les réponses vont venir. Vraiment, je vous le garantis. Voilà ce que je
peux dire. J'en ai les frissons. Merci beaucoup.
Oh non, merci à toi, vraiment, c'est adorable ce que tu me dis. Merci Lucie, c'est vraiment touchant, vraiment.
Merci.
Oh, c'est vrai, c'est trop touchant. Je n'ai pas jamais parlé de tout ça face caméra, hein, vraiment. Donc merci beaucoup de m'avoir permis de le faire. Ça peut aider, ben, tant mieux, tu vois, c'est cool.
C'est le but, mais en tout cas, tu vois, j'en suis émue. Merci beaucoup pour toutes ces paroles que je partage à 300%. C'est juste, c'est très pertinent et juste. Merci beaucoup.
Ah, merci à toi, vraiment, merci. Je n'oublierai pas ce moment partagé ensemble, vraiment. Merci beaucoup, Lucie.
C'est cool. En tout cas, si tu pouvais nous partager à nouveau ton compte Insta, le dire, s'il te plaît.
Bien sûr. Alors, bah, mon compte Instagram, c'est mon prénom. Donc, bah, je m'appelle Naïm, N-A-I-M. Point, mon nom de famille, c'est Bouhouchma. Alors, je n'ai pas choisi, c'est B-O-U-O-U-C-H-M-A. Donc, Naïm.Bouhouchma, B-O-U-O-U-C-H-M-A. Ouais, c'est bizarre.
J'aime bien, je ne l'ai pas choisi.
Ah, je vous jure.
T'es trop. Mais je le mettrai en commentaire Je te remercie infiniment à nouveau pour ces partages qui, pour moi, sont des pépites, vraiment. Je te souhaite une très, très belle continuation et encore, je te le notais, qu'ils ont bien de la chance de t'avoir voilà. Je le pense fortement. J'aurais aimé avoir un prof comme toi.
Oh, ben merci beaucoup. C'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Hein. Vraiment, et j'essaye d'être le prof que j'aurais voulu avoir à l'époque, en fait. Tu vois, c'est simplement ça. Donc merci, hein, Lucie. Vraiment, merci du fond du cœur. Vraiment. J'essaye.
Je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à bientôt, Naïm.
Merci beaucoup, Lucie. Vraiment. Moi de même. À très bientôt.